Cette famille règne aujourd'hui sur un royaume, mais elle en a gouverné plusieurs et aurait pu, si le destin lui avait été plus favorable, régenter une bonne partie du monde arabe. La dynastie hachémite, car c'est d'elle qu'il s'agit, a vu ses ambitions contrecarrées par ses rivaux arabes, par les grandes puissances, à commencer par la France, mais aussi une partie de l'administration britannique, alors qu'elle était soutenue à bout de bras par l'autre fraction de la diplomatie londonienne. Cette saga est racontée en détail et de façon très vivante dans un livre publié chez Stock par Rémi Coffert. Portrait d'Orient reçoit donc aujourd'hui l'auteur de la saga des Hachémites. Bonjour Rémi Coffert.
Bonjour.
C'est donc moins votre portrait que celui de cette famille d'exception que nous allons tracer dans l'émission. Mais on va parler un petit peu de vous. Vous êtes journaliste et écrivain, journaliste d'investigation, comme on dit. Vous êtes longtemps spécialisé sur les services secrets français, soviétiques, américains, israéliens, chinois. La plupart du temps avec votre ami Roger Faligot. Vous avez aussi écrit sur la Seconde Guerre mondiale et sur la guerre d'Algérie. Bref, on voit bien que l'histoire vous passionne. Dans ce parcours, à quel moment et de quelle façon vos pas ont croisé ceux de la famille Hachémite ?
Ben écoutez, c'est assez ancien parce que ça remonte à la guerre du Golfe. À cette époque, je me suis aperçu que il y avait très peu de monde qui était capable de saisir les tenants et les aboutissants des conflits de ce que j'appelle globalement le Moyen-Orient. Alors un aparté Proche-Orient, je ne fais pas de différence pour que ce soit plus simple. J'ai trouvé donc que c'était une histoire évidemment effroyablement compliquée, que personne ne comprenait. Et je me suis dit que ce serait intéressant, que ce serait un beau défi d'écrire cette histoire sous une forme compréhensible pour le grand public qui n'est évidemment pas initié.
C'est pas l'histoire du Moyen-Orient, c'est l'histoire de la famille Hachémite, mais enfin, c'est impossible de comprendre le Moyen-Orient si on suit pas ce parcours exceptionnel.
Oui, et puis surtout, j'ai mis quand même un certain nombre d'années à m'apercevoir, évidemment, je cherchais un fil conducteur. Pour raconter une bonne histoire, pour qu'elle soit compréhensible par les gens, il faut un fil conducteur. Et ce fil conducteur, j'ai fini par le trouver justement dans cette famille des Hachémites, le père et les quatre fils, les quatre frères Hachémites, dont le destin parcourt précisément tout le Moyen-Orient.
Alors, avant d'aller plus loin, un petit peu de définition. Quand on dit la famille Hachémite, de qui parle-t-on exactement ?
Alors, la famille Hachémite, les Beni Hachem, c'est un clan familial puissant, prestigieux, parce qu'il s'agit d'authentiques descendants du prophète, à la 38e génération pour le père et donc à la 37e pour le fils. Et cette famille, c'est une des deux branches qui se sont partagées, si vous voulez, le rôle de shérif de la Mecque. Le shérif de la Mecque.
Shérif, c'est pas au sens du western, naturellement.
Pas du tout, non. Il s'agit pas de pistolets et d'étoiles. Il s'agit de personnes qui sont chargées de veiller à ce qu'à la Mecque, qui est évidemment la ville sainte, la plus grande ville sainte de l'islam, les conditions favorables soient réunies pour le culte musulman, pour les pèlerinages, et ainsi de suite.
Alors, on raconte pas l'histoire des 38 générations. Votre histoire dans le livre commence en 1909, et vous disiez le père et ses quatre fils. Le père ?
Alors, le père, c'est donc le shérif Hussein, qui a été exilé avec d'ailleurs trois de ses fils, le quatrième naîtra là-bas, à Istanbul, par le sultan Abdulhamid, qui est le dernier sultan de l'Empire ottoman, car cette région est encore sous la férule de l'Empire ottoman à l'époque. Le père a été exilé parce qu'il était un petit peu suspect d'avoir des velléités d'indépendance. Il revient en 1908-1909, il est nommé donc shérif de la Mecque, et là il commence à nourrir un rêve absolument immense qui est celui d'un grand royaume arabe unifié sous sa férule.
Et l'occasion se présente avec la Première Guerre mondiale.
L'occasion se présente avec la Première Guerre mondiale, puisque il y a une espèce de petit ballet avec les Britanniques. Alors il faut voir que les Britanniques sont au Caire, sont en Égypte depuis pas très longtemps d'ailleurs, et que les Britanniques ont deux objectifs principaux dans la région. L'objectif, disons, global, c'est de protéger la route des Indes, qui est la perle de l'Empire britannique. Et pour protéger la route des Indes, il faut d'une part s'assurer le contrôle du golfe arabo-persique. Donc il y a un certain nombre de manœuvres qui sont menées par le Raj, c'est-à-dire le gouvernement des Indes, en direction du golfe arabo-persique. Et puis de l'autre côté, le canal de Suez. Il faut protéger le canal de Suez pour assurer la route, c'est la route maritime des Indes. Ça suppose pour la Grande-Bretagne le contrôle de deux régions précises qui sont la Palestine, à cause du canal de Suez, et l'Irak, à cause de Bassora et du Chouat el-Arabe et du fait qu'on remonte ainsi jusqu'à Bagdad.
Alors on a souvent tendance à croire que les gouvernements ont une politique bien claire, unie, et que ces agents l'appliquent un peu partout, mais dans le cas présent, c'est pas du tout le cas. Il y a d'un côté une branche de l'administration, celle qui s'occupe du Golfe, qui va défendre une politique, et celle qui est du côté du canal de Suez, qui va en soutenir une autre.
Vous êtes même modeste en ne donnant que deux branches, parce qu'en réalité, il y en a 5 ou 6, si vous voulez. Il y a le bureau arabe du Caire, dont le personnage le plus célèbre, qui au début n'est qu'un petit sous-lieutenant, va être le futur Lorenz Darabi. Le bureau arabe du Caire mène une politique qui est en direction des Hachémites, mais vous avez aussi donc le gouvernement de l'Inde, qui veut une politique de bascule entre les Hachémites et les Séoudiens, car il y a aussi la famille des Séoudes, qui est une famille extrêmement puissante, qui commence à redevenir puissante, qui a été très puissante sous la férule d'Ibn Séoud. Donc c'est un des pires ennemis des Hachémites, et la Grande-Bretagne essaye, si vous voulez, de faire un pas de deux en s'attirant la sympathie des deux pires ennemis de la région.
Alors on revient au rêve du shérif Hussein, pour lui-même et pour ses 4 fils, de diriger un grand royaume arabe. Pour ça, il a besoin de combattre les Turcs et il a besoin d'alliés. Et son allié naturel, c'est la Grande-Bretagne.
Son allié naturel est la Grande-Bretagne. Il y a donc des contacts qui sont pris. Et puis en 1915, quand l'Empire ottoman déclare la guerre à la France et à l'Angleterre et passe du côté de l'Allemagne, les choses vont se cristalliser. À ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle la correspondance Hussein-McMahon, c'est-à-dire qu'un haut fonctionnaire britannique, Henry McMahon, échange des lettres, évidemment, secrète avec le shérif Hussein, promettant entre les lignes, de manière évidemment floue, mais que le shérif Hussein prend au pied de la lettre, justement la constitution de ce futur royaume arabe sous la férule des Hachémites. Ça, c'est un premier point. Mais de l'autre côté, comme la main droite ignore ce que fait la main gauche, vu que la Grande-Bretagne en fait a 5 ou 6 mains, eh bien, on négocie avec les Français. Il faut maintenant parler un peu des Français. On a dit tout à l'heure que les Britanniques avaient comme objectif la Palestine et l'Irak. Les Français ont aussi des objectifs. C'est la Syrie et le Liban, qui à l'époque sont une entité commune.
C'est le fameux accord Sykes-Picot.
Voilà. Alors, c'est un autre.
Qui partage le Moyen-Orient.
Voilà, c'est un autre. Haut fonctionnaire anglais, un diplomate, Mark Sykes, qui, avec Georges Picot, négocie secrètement un accord de partage de la région, au terme duquel la Grande-Bretagne aura l'Irak, aura la Palestine, et la France aura la Syrie. Une partie reviendra quand même à la Grande-Bretagne, puis les Russes se grefferont aussi un peu là-dessus, ils auront une partie. Mais, évidemment, on cache naturellement aux Hachémites que on a signé cet accord avec les Français.
Ils finissent quand même par se douter de quelque chose, et puis Laurence, dont vous parliez tout à l'heure, on ne sait plus à partir d'un certain moment si son allégeance va entièrement à la Grande-Bretagne ou à la famille Hachémite ou surtout à lui-même.
On le sait pas trop. Il écrira que celui qui sert 2 mètres à la fois se dégrade. C'est possible. En tout cas, c'est vrai qu'il va révéler le poteau rose à un des 4 frères Hachémites, au prince Faisal. Et qu'à partir de ce moment-là, seulement Faisal joue aussi perso à l'intérieur de sa famille.
Alors Faisal, c'est l'un des 4 fils. Hein,
l'un des 4 fils, c'est ça. Et à l'intérieur de cette famille, chacun joue perso. Il y a des jalousies du père envers les fils. C'est jalousie d'un certain nombre de fils, surtout Abdallah, qui est le deuxième fils, et Faisal, qui est le troisième. C'est une jalousie qui fait qu'ils se livrent au pire coup fourré l'un contre l'autre.
Clairement, le colonel Lawrence a une forte préférence pour Faisal.
Lawrence choisit Faisal. C'est d'ailleurs un des 2 grands moments où Lawrence va réellement peser sur la politique britannique dans la région. C'est-à-dire que par ses rapports, il est l'homme de terrain. Il n'y a personne pour le contrôler, il est celui qui est sur le terrain.
Bon, c'est quand même l'occasion de remettre quelque chose au point. C'est pas lui qui a déclenché la grande révolte arabe de 1916.
Pas du tout. Ce qui se passe, c'est que c'est l'homme de terrain pour les Britanniques. Et que, étant le seul homme qui est sur le terrain au contact du prince Faisal, mais aussi l'a rencontré Abdallah, eh bien, il fait des rapports. Il fait des rapports à son service, le bureau arabe du Caire, et ces rapports sont un chef-d'œuvre de fiel concernant Abdallah et un chef-d'œuvre de propagande en faveur de Faisal qui est très beau physiquement, qu'il compare à Richard Cœur de Lion. Enfin, il avance toutes les choses qui sont susceptibles de séduire un certain romantisme britannique et dont il faut également tenir compte.
Alors, on s'écarte un tout petit peu de la famille Hachemite parce que c'est difficile de ne pas parler de Laurence, que tout le monde connaît sous le nom de Laurence d'Arabie, comme le titre du film qui lui a été consacré où il est joué par Peter O'Toole.
Oui, il est joué par un Anglais, ce qui est assez bizarre. C'est-à-dire que dans le film de David Lean, qui est magnifique à part ça, mais les principaux rôles, à part Omar Sharif, les principaux rôles sont joués d'Arabes, sont joués par des Américains ou des Anglais, ce qui est quand même paradoxal. Je ne mets pas en cause le...
Mais le film Laurence d'Arabie, qui est à la gloire de Laurence, est largement tiré du livre que Laurence a écrit lui-même, Les Sept Piliers de la Sagesse, un livre remarquable qui commence par une introduction où il dit que l'histoire, généralement, met en valeur les généraux parce que ce sont les généraux qui écrivent l'histoire et non pas les simples soldats, et il voulait rendre hommage aux simples soldats. Mais en fait, il fait exactement dans son livre ce qu'il dénonce chez les autres.
Oui, vous dites qu'il est remarquable. Il est remarquable sur le plan littéraire, c'est certain, et sur ce qu'il révèle du personnage très complexe de Laurence d'Arabie. Sur le plan de la véracité historique, il y a beaucoup à dire.
Alors, il y a un point dans votre livre qui innove, en tout cas par rapport au livre qu'on lit habituellement sur cette époque, c'est que on avait le sentiment jusqu'alors que la grande révolte arabe contre les Turcs avait été aidée largement par les Britanniques, ce qui est vrai, mais vous insistez sur le fait qu'il y a eu un rôle, peut-être pas aussi important, mais un rôle quand même, de l'armée française.
Oui, c'est-à-dire que la France envoie une mission militaire au Hedjaz. Alors, le Hedjaz, c'est la région occidentale, si vous voulez, de la péninsule arabique, et c'est là où se trouvent les deux grandes ville 5, la Mecque et Médine. Et on envoie une mission militaire au Hedjaz, dont les éléments occidentaux, chrétiens ou occidentaux en tout cas, ne peuvent pas aller en Terre Sainte musulmane, évidemment, et restent donc dans le port de Jeddah, qui est international et hors de la zone sainte. Mais on envoie également la France, l'avantage par rapport à la Grande-Bretagne, de bénéficier d'un certain nombre d'officiers maghrébins, de confession musulmane, et qui de ce fait peuvent aller à la Mecque, et notamment Chérif Kadi Ben Larbi, qui est le premier polytechnicien d'origine algérienne. Alors lui peut aller à la Mecque où il aura des entretiens assez intéressants avec le shérif Hussein, qui le prend en sympathie. Enfin, il prend aussi beaucoup la France en sympathie parce que naturellement il joue la France contre la Grande-Bretagne contre la France et ainsi de suite.
Alors Laurence, qui n'aime pas beaucoup les Français en général, fait quand même quelques exceptions pour des officiers français arabisants qui partagent comme lui cette passion.
Oui, notamment le capitaine Pisani. Mais par exemple, il ne sort qu'une phrase valorisante pour un autre officier qui va jouer un rôle considérable, qui est le capitaine Rao, qui est un officier de ce pays, musulman également, dont je ne dirais pas qu'il l'exécute parce qu'il en dit du bien, mais enfin, il y a une phrase, quoi, en disant que c'était un brave garçon qui travaillait dur. Vous voyez, le paternalisme vis-à-vis des Arabes, quoi, ils ne sont pas finalement très importants.
Est aujourd'hui consacré à Rémy Kofer, journaliste et écrivain qui vient de consacrer un gros livre à la saga de la famille Hachemite. Donc on revient au personnage principal quand même de votre livre et de cette histoire, qui est Faisal, le fils de Hussein. Quand on dit Hussein, il ne s'agit pas de celui que les gens connaissent sous le nom de Hussein de Jordanie, hein, c'est le shérif de la Mecque au début du XXe siècle. Donc Faisal, qui va se rendre à plusieurs reprises en France à la fin de la Première Guerre mondiale pour essayer d'obtenir pour les Arabes le royaume que les Anglais leur ont promis.
Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est donc que les Britanniques, pour un petit peu ennuyer les Français voulaient Damas, les Britanniques, pour ennuyer les Français, compte tenu du fait que les contingents occidentaux sur ce front sont essentiellement britanniques, ont laissé l'armée arabe de Faisal, la petite armée arabe de Faisal, pénétrer dans Damas et s'emparer d'un certain nombre de leviers de commande. À partir de ce moment-là, de toute façon, Faisal est un allié des Occidentaux, il doit être traité en tant que Vatel et participer à la conférence de la paix, la fameuse conférence entre autres de Versailles, à laquelle il va participer. Enfin, il arrache quand même de haute lutte sa participation parce que le Quai d'Orsay lui met les pires bâtons dans les roues. Il finit quand même par l'arracher et défendre lors d'un discours extrêmement vigoureux le droit des Arabes à l'indépendance et à ne plus cesser de dépendre donc des Turcs ou des Occidentaux.
Clémenceau se montre aimable, mais ça s'arrête là.
Clémenceau n'a pas une pensée colonialiste, mais par ailleurs, il se montre aimable et même, vous savez, quand il sort au prince Faisal, oui, mais vous comprenez, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de temps pris par le problème du Rhin et de la démilitarisation de la région. C'est quand même très méprisant vis-à-vis de quelqu'un qui se bat depuis 1916, comme ses frères, du côté des Alliés.
Et donc, lui qui était venu avec l'espoir d'être le roi des Arabes, qui a été chassé de Damas par les Français ?
Alors oui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il va donc revenir à Damas. Et puis, il y a un mouvement nationaliste très fort, il y a des mouvements panarabes, parce que ce qu'il faut voir, c'est que toute cette histoire est jalonnée de sociétés secrètes, je détaille pas, de groupes d'officiers, de groupes de civils qui conspirent contre les Ottomans dans le but d'arriver à l'indépendance arabe et à l'unité d'une patrie arabe. Et Faisal revient, il essaye de temporiser, car il a une conscience, y compris étant venu en France, on lui a fait visiter Verdun, on lui a fait le grand jeu. La France, n'oubliez pas que la France est à l'époque la plus grande puissance militaire terrestre du monde. Et Faisal en est conscient, c'est-à-dire qu'il essaye d'éviter l'affrontement militaire direct. Et évitant l'affrontement militaire direct, il essaye de temporiser. Sauf qu'il est un petit peu débordé par les éléments nationalistes les plus radicaux, qui un congrès qui le proclame, un congrès syrien qui le proclame roi de Syrie. Ça irrite profondément la France, qui ne veut pas lui reconnaître ce titre de roi de Syrie. Donc, on va envoyer, c'est le système habituel, on envoie une armée qui vient du Liban, qui est un peu tombée déjà sous l'influence française directement, et on le chasse manu militari il y a un combat, le combat de Kain Messaloun, complètement oublié de nos jours, en juillet 1920, où la petite armée de Faisal se bat héroïquement contre l'armée française, qui est évidemment supérieure, et Youssef Bey El Azmé, par exemple, qui est le chef de cette petite armée, est un héros national en Syrie, mais totalement inconnu ici, en Occident.
Alors, la Syrie, ça ne marche pas. Il va se retrouver en 21 roi d'Irak. Son frère, Abdallah, lui, se retrouve à la tête d'un émirat de Transjordanie qui est quand même beaucoup plus petit que la Palestine qu'il convoitait, parce que la Palestine, ce sont les Anglais qui la gardent.
Alors, les Anglais veulent effectivement garder la Palestine, on l'a dit, c'est un de leurs objectifs stratégiques. Sous prétexte de venir aider son frère qui vient d'être chassé par les Français de Syrie, Abdallah remonte vers le nord. Il part de la péninsule arabique, hein. Il monte vers le nord et il va effectivement mettre la main sur la Transjordanie, qui est une région au statut administratif très flou, s'imposer en quelque sorte là-bas. Et puis les Britanniques décideront, c'est ce qu'on appelle la solution hachémite, continuer à s'appuyer sur les hachémites, les Britanniques se résoudront à le soutenir.
Alors que ce soit en Irak ou en Transjordanie, ce sont deux monarques sous tutelle.
Ce sont deux monarques qui ne sont pas totalement indépendants, bien sûr, parce qu'ils dépendent de la Grande-Bretagne. Mais le paradoxe, c'est que Faisal, donc, à l'origine, Abdallah devait avoir le trône d'Irak, de Bagdad, et puis son frère, le trône de Damas, de Syrie. Faisal est chassé de Syrie, et les Anglais lui proposent l'Irak, qui était en principe dévolu à son frère. Donc la jalousie entre les deux frères augmente. Et ce qui va se passer de curieux, c'est que Abdallah, qui administrativement, financièrement, est très dépendant de la Grande-Bretagne, va finalement s'assurer plus d'autonomie que son frère, dont le pouvoir a beaucoup de mal à prendre. Il n'y a finalement qu'au moment de sa mort, donc 1933, qu'il y aura un élan de la population irakienne, des pleurs, enfin vraiment un élan sincère vers ce souverain, mais c'est au moment où il disparaît. C'est-à-dire que la monarchie hachémite d'Irak a énormément de mal à s'implanter dans cette mosaïque qu'est l'Irak.
Abdallah, Abdallah voit monter le sionisme et l'arrivée des juifs, les tensions avec les arabes, et peut-être plutôt que d'autres, il comprend l'intérêt qu'il y a de discuter avec les leaders sionistes, et c'est d'ailleurs ce qui va causer sa perte.
Oui, ce qui se passe, c'est que les Hachémites, de manière générale, ont une conception qui a été forgée par leur expérience dans l'Empire ottoman. Ils ont été longtemps à Istanbul. Dans l'Empire ottoman, les minorités religieuses avaient droit à une certaine minorité nationale ou religieuse, avaient droit à une certaine autonomie. Et cette autonomie dont ils disposaient dans l'Empire ottoman, ils veulent chacun la transposer dans leur royaume respectif. Pour ce qui concerne la Transjordanie, avec visée sur la Cisjordanie, c'est-à-dire l'autre rive du Jourdain, Transjordanie c'est Jourdain, hein. Abdallah, alors qu'il y a donc des discussions avec les sionistes, puisque les Anglais, j'ai oublié de signaler que les Anglais, pour compliquer, ont également promis un foyer national juif en Palestine. Voilà, c'est-à-dire qu'ils promettent tout à tout le monde. En gros, ils ont également promis à Ibn Saoud et ils vont tenir aucune de leurs promesses. Alors, Abdallah se fait une conception, lui pense que dans son royaume, et il ne cesse de le proposer aux émissaires sionistes qu'il rencontre, en bon terme, en bonne sympathie, mais dans mon royaume, vous aurez le droit à une autonomie politique, administrative, vous pourrez pratiquer votre culte librement, et c'est vrai que les Hachémites sont des gens très tolérants sur ce plan, mais je crois qu'il ne comprend pas que il ne comprend pas que le projet sioniste est de construire un État hébreu. Lui, il pense que c'est simplement une espèce d'autonomie plus grande pour la communauté juive.
Mais néanmoins, il y a le partage de la Palestine décidé par les Nations Unies, la première guerre israélo-arabe, et dans ces périodes troublées, Abdallah garde le contact avec ceux qui sont maintenant les Israéliens.
Hein, oui, tout à fait.
Et il en profite d'ailleurs pour mettre la main sur la Cisjordanie à la faveur du désordre général.
C'est-à-dire qu'il a la seule armée vraiment efficace et qui est capable de battre la Haganah, l'armée israélienne, la Légion arabe de Transjordanie, dirigée par un personnage assez extraordinaire en anglais qui s'appelle Gluck Pasha. Cette Légion arabe lui permet d'atteindre un certain nombre de ses objectifs, car il a secrètement, il a négocié une espèce d'accord tacite. Si vous me laissez mettre la main sur la Cisjordanie, je vous laisserai avancer ailleurs. Et évidemment, il veut gérer.
Ça rassure les Israéliens que ce soit plutôt un Hachémite qui contrôle la Cisjordanie que d'autres.
Oui, puis ils craignent quand même son armée, qui est une bonne armée. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, les Israéliens veulent s'emparer de tout Jérusalem, ce qui est insupportable pour lui. Car il faut dire que, entre-temps, sa famille a perdu la Mecque et Médine, qui ont été prises par les Wahhabites, par les partisans d'Ibn Saoud. Donc ils ont perdu deux grandes villes saintes de l'islam. Quand il voit que les Israéliens veulent s'emparer de Jérusalem, il envoie sa légion arabe, qui sauve, pour les Arabes, une partie de Jérusalem. Mais il a annexé, en quelque sorte, il a profité de cette guerre pour annexer la Cisjordanie. Jordanie, ce qui lui vaut la haine d'un certain nombre, assez compréhensible, d'un certain nombre de nationalistes palestiniens. Et en 1951, il va être assassiné sous les yeux de son petit-fils, qui est le futur roi Hussein de Jordanie.
Alors, ça vaut le coup quand même qu'on raconte cette journée de juillet 51, qui est restée dans toutes les mémoires, en tout cas des Arabes. Ça commence le matin, quand il se prépare à aller prier sur la mosquée d'Al-Aqsa, en compagnie de son petit-fils, le futur roi Hussein.
Voilà, c'est ça, il veut prier, et c'est un homme extrêmement courageux. Hussein également, d'ailleurs, serait extrêmement courageux. On l'a prévenu, l'ambassadeur, y compris l'ambassadeur américain, a dit, il y a des bruits bizarres, il y a des choses, etc. Et il y a une atmosphère très lourde. Mais il décide d'aller, il dit, si c'est la volonté de Dieu, j'y vais quand même.
Ses proches craignent qu'il soit assassiné,
bien sûr. Si c'est la volonté de Dieu, j'y vais, car je suis dans la main de Dieu. C'est un croyant, hein, c'est un fidèle. Il va donc prier. Au moment où il va rentrer dans la mosquée, il y a un homme qui là-bas, il y aura une poursuite épouvantable à l'intérieur de la mosquée de ses gardes désespérés qui essayent de rattraper le tueur et qui finissent d'ailleurs par l'abattre.
Mais revenons à cette matinée quand il dit à son petit-fils, viens avec moi. Il insiste pour qu'il porte une médaille.
Oui, en effet, c'est cette médaille qui va sauver la vie
d'Hussein.
Parce que la balle ricoche dessus. Hussein, c'est... Alors, Abdallah est épouvantable avec ses fils, et en particulier son aîné Talal, le père du roi Hussein de Jordanie. Mais Si vous voulez, en tant que grand-père, il a un amour éperdu pour son petit-fils Hussein, dont il pense à juste titre d'ailleurs qu'Hussein va être le continuateur de la monarchie hachémite.
On va pas avoir le temps de raconter l'histoire de Hussein, ce serait une autre émission.
C'est 45 ans l'histoire
de Hussein. C'est 45 ans. Mais ce premier attentat dans lequel sa vie est sauvée par une médaille, c'est le début de la légende de la baraka de Hussein qui va échapper à d'innombrables attentats.
Bah, c'est pas une baraka, hein. Il va échapper alors que son cousin Faisal II, qui est le petit-fils de Faisal Ier, est assassiné par les militaires en 1958 avec toute la famille. Ça aussi, c'est horrible, c'est un carnage. 14 juillet 58, c'est un carnage absolument épouvantable à Bagdad. Mais Faisal, on le voit, il est dans son palais, il tourne en rond, alors qu'Hussein est un homme, quand il est menacé d'attentat, il saute sur la voiture et il dit « Ma vie est entre vos mains, je suis Hussein ».
Rémi Kofer, l'émission se termine. On n'aura pas parlé du règne du roi Hussein, mais on a eu d'autres occasions de le faire. Il est mort en 99. Aujourd'hui, quel est le poids de la famille hachémite dans le Moyen-Orient contemporain ?
Il est limité. Les Américains avaient pensé à un moment à mettre un des descendants de la branche irakienne au pouvoir en Irak. Ils ont renoncé. C'est un rêve qui se réduit maintenant aux dimensions de la Jordanie, qui sont appréciables, mais qui sont modestes, bien entendu. Mais c'est un rêve qui parcourt tout le XXe siècle dans le monde arabe, qui a nourri tout le XXe siècle dans le monde arabe et contribué à le façonner.
Merci Rémi Kofer d'avoir participé à cette émission. Portrait d'Orient est terminé. À la semaine prochaine.